Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour notre chroniqueur préféré Michel de Rivoire.
Parmi tant d'autres.
Un bonjour. Chroniqueur pour Demeures et Familles. Nous allons poursuivre aujourd'hui par l'évocation toujours de cette dynastie des Bernuys. Nous avons vu Jean de Bernuys et dans ce contexte toulousain, dans ce contexte européen d'une époque agitée, le XVIe siècle, avec notamment les guerres de religion. Et donc on va aujourd'hui un peu plus évoquer cette famille et notamment ses ancrages patrimoniaux. Et je ne résiste pas à vous lire la description des armes de la famille. D'azur à deux navires d'argent, flottant sur des ondes, de même posés l'un sur l'autre, à la bordure de gueules chargées de 8 coquilles d'argent.
Donc, ça sent le
grand
large.
Ça sent l'aisance financière.
Mais aussi les vagues. Il y en a eu dans cette dynastie.
Donc, nous sommes au milieu. On a quitté Jean de Bernuys.
Le fondateur français.
Au milieu du XVIe siècle. Et c'est son fils, Jean II.
Jean II, on peut dire, oui.
Qui va continuer cette activité, bon, qui va s'éteindre, voilà. Compte tenu de la crise du pastel avec l'indigo. Et c'est vrai que cette compagnie de Bernuys, elle va subir de plein fouet, parce qu'elle avait vraiment privilégié...
Des vents mauvais, donc.
des vents mauvais. Alors, malgré le bateau qui figurait sur son écu, ces vents ne vont plus la porter. Mais Jean de Bernuys, Jean II, continue d'habiter l'hôtel et continue de vivre à Toulouse et de vivre dans la bonne société toulousaine. Michel.
Oui, de vivre très bien entouré, vous le dites de façon très élégante, mais surtout, comme le vent tourne, hein, on reste dans la métaphore, on va parler, je pense, des guerres de religion, tous ces troubles des années 1560, voilà, bien tristement célèbres à Toulouse. Il est quand même à court d'argent, ce Jean II. Il vend pour 20 000 livres, pour l'époque, c'est pas grand-chose. L'hôtel de Bernuys à Antoine de Clary, qui est un autre personnage montant du milieu du XVIe siècle, qui lui est receveur du roi à Montpellier. Donc c'est la cour des aides et des finances, il a les moyens. Et il a compris que c'était un bel édifice. Mais c'est une embrouille, c'est-à-dire que la créance n'est pas entièrement recouverte. Jean de Bernuys reste quand même dans l'hôtel avec son frère qui est un abbé, et qui est président de la Chambre des enquêtes au Parlement. Donc, vous voyez, on est encore des personnages un peu difficiles, comme sur un échiquier à mettre dehors. Tout ça, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Et c'est l'année 1562 qui va aggraver la situation.
Voilà,
La fameuse année où
Trouble maximum
a été assassiné, alors qu'il cherchait, comme président du Parlement, à apaiser les choses. Entre eux, rappelons-le, les extrêmes de l'époque qui étaient, d'une part, les catholiques, la Ligue, et certains protestants. Or, Bernuys avait épousé la cause du calvinisme, pour être précis.
Ah oui, il avait plus que des sympathies, il s'était converti.
Mais à l'époque, ça ne se criait pas, ça ne s'écrivait pas, ça ne se disait pas.
Mais ça se savait.
Ça se savait, très bien.
Oui.
Et donc, y a un épisode, je ne sais pas si Sébastien, tu veux qu'on le développe, mais qui éclate le 11 mai 1562 dans Toulouse, et les troupes protestantes se rendent maîtres du Capitole et des rues voisines. Donc on n'est pas très très loin de l'hôtel de Bernuys. Elles sont contenues par les forces catholiques. Jacques de Bernuys, le frère abbé, qui est suspecté d'avoir des sympathies pour les protestants, tout abbé qu'il soit, catholique, qui craint d'être victime du conflit, se tourne du côté des catholiques et demande des soldats pour la défense de l'hôtel de Bernuys. Mais ceux-ci, ces gardes, se livrent au pillage de la demeure. Donc, vous voyez, on a du mal, nous, à...
Période très, très bousculée, très trouble.
Donc, on pillage. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Et en 1566, l'hôtel de Bernuys est acheté par trois bourgeois de Toulouse, ainsi qualifiés, c'est-à-dire qu'ils habitent la cité, le bourg. Pierre Delpech, certainement.
Dans l'ancien commerçant pastelier,
oui.
lié à César.
Voilà, tout se savait déjà avec leurs espions. Pierre Madron et Jean de Gamois.
Madron aussi.
Oui. Ils offrent l'hôtel de Bernu à la ville dans le but d'y établir un collège confié aux jésuites. Et les jésuites, en 1560, dans les années 1560, ils sont en pleine expansion, vous le savez. Hein, Ignace de Loyola est encore de ce monde, je crois.
C'est l'arme de la reconquête de l'Église.
Voilà. Donc, et comme on est au moment de la contre-réforme, il y a tout un mouvement pour amener l'enseignement. Voilà. On les met dans des lieux plutôt prestigieux. Alors, je ne sais pas si c'est adapté à ce moment-là à l'enseignement, mais en tout cas, fondation d'un grand collège sur le modèle des grands collèges parisiens. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un phénomène qui nous est très, très difficile à appréhender, c'est-à-dire les transports à cette époque. Comment peut-on appliquer un modèle parisien, surtout pour l'éducation, en si peu de temps et convaincre les édiles qu'il faut faire un collège dans le Bernu. On n'a pas Internet, on ne peut pas s'envoyer les plans.
Oui.
Bon, ils avaient des moyens qu'on ne peut pas imaginer.
Ouais, ouais.
Voilà. En tout cas, à partir de ce moment-là, des années 1560, le premier collège moderne de la ville, il y a aussi le collège de l'Esquile qui est très important à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le siège des impôts.
Oui, sous ce sens-là, la direction régionale des finances publiques. Oui.
Voilà. Et les jésuites sont restés là, finalement, le collège en tout cas, jusqu'à leur expulsion sous Louis XV, 1763.
Oui. C'est l'Homénie de Brienne. Notre archevêque qui a été chargé de la basse besogne.
Oui, après un épisode parlementaire houleux, enfin un parmi tant d'autres, voilà.
Oui.
Et qui est une des causes de la chute de l'Ancien Régime. Donc, il y a eu beaucoup de travaux d'aménagement qui ont été réalisés dans les fins des années 1560. Jusqu'au XIXe siècle, puisque c'est la fin des collèges classiques de cette période. Et,
donc, il va devenir collège royal, j'imagine.
Collège royal, puis lycée, sous Napoléon, 1802. Et ils sont dévolus en 1957, donc c'est très tardivement, au collège Pierre de Fermat.
Ah oui.
Voilà.
L'ensemble des bâtiments.
L'ensemble des bâtiments, je n'ai pas le détail, mais ça, c'est facile à retrouver. En tout cas, la sortie sur le côté des Jacobins était déjà...
Le grand portail
équipé.
Oui, oui.
Voilà. Puis, au XIXe siècle, alors on ne fait pas une étude sur le collège Pierre de Fermat, mais c'est intéressant d'avoir toutes ces, si vous voulez, ces correspondances, c'est bien notre sujet, entre les familles patriciennes, c'est-à-dire celles qui ont le pouvoir finalement, avec tout ce que ça peut comporter d'étrange pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Mais au fond, un édifice de la qualité et de qui a l'aura telle que celui de l'hôtel de Bernu, on peut y loger des étudiants, des élèves. Ça peut être et puis surtout, ça devient un repère pour Toulouse. Ça devient un repère... à la fois architectural, moral et intellectuel. Voilà.
Tout à fait.
Un centre de
culture.
Il y a
un continuum là qui est vraiment intéressant.
Voilà. Plutôt que d'avoir rasé l'édifice.
Et oui, voilà un lieu qui s'est adapté et qui a vécu jusqu'à nos jours, avec des usages qui ne l'ont pas affecté.
Voilà.
Et ça, je crois que c'est
dénaturé
intéressant.
Même, on peut dire.
Voilà.
Oui.
Je crois que c'est intéressant aussi à relever.
Et il y a un continuum, vous l'avez très bien dit, à tel point que même au 19e, on avait tendance à aller peut-être un peu loin dans certaines...
Oui.
Voilà. Des travaux ont été menés sur l'édifice, qui l'ont tout de même respecté, 1885-89, par un architecte, Anatole de Baudot, connais pas bien, mais qui est un élève de Viollet-le-Duc. Vous voyez, on est bien dans le sujet de la rénovation par Viollet-le-Duc, qui... Et il avait notamment un projet de restitution de la galerie de bois sur la cour d'honneur.
Ah oui.
Bon. Mais c'est un des premiers bâtiments à Toulouse, public, qui a été classé au titre des monuments historiques.
1889.
Voilà.
Ouais. Il est assez remarquable de noter aussi qu'il est de telle qualité qu'il est remarqué pour être en partie moulé et reproduit à la Cité de l'architecture.
Au Palais de Chaillot, à Paris, tout à fait, oui, pour l'édification de nos étudiants en archi.
La Cité de l'architecture héritante de l'ancien Musée des Monuments Français,
voilà,
qui devait être l'échantillon de l'architecture et des arts en France.
Alors, est-ce que la famille de Bernuy, avec le sort malheureux à la fois de l'entreprise et de l'héritier,
Jean Ier et Jean II,
est-ce que cette famille avait tissé des liens dans des branches qui ont survécu à la famille d'origine, ou est-ce qu'elle s'est éteinte complètement ?
Alors, votre question est tout à fait centrale, Aline, parce que le nom s'est éteint, ça, clairement.
Oui.
Alors, en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas, à Toulouse, c'est certain. En revanche, c'est par les femmes et un rôle majeur de
mariages.
La gente féminine par les mariages.
Oui.
Et nous aurons peut-être l'occasion, dans une prochaine émission, de parler de la fille de Jean Ier, qui est Éléonore de Bernuy, qui a épousé un parlementaire du fort et qui a été, qui a pris les atouts, qui a récupéré tous les atouts de son père, à la fois comme femme d'affaires, comme seigneuresse et comme autrice d'une descendance qui fera beaucoup parler d'elle.
Bon sang ne saurait mentir.
Voilà. Et peu importe finalement les noms de famille. D'ailleurs, on la connaît comme Éléonore de Bernuy, comme Éléonore Dufort.
Oui, vous voyez, la place des femmes...
elle est centrale.
Elle est centrale. Merci beaucoup, Michel, encore une fois, de cette évocation...
Bonne semaine à tous.
De Bernuy, des Bernuy.
Merci. Bonne semaine à tous, merci Michel.
Au revoir, bonne semaine.